Qu'est-ce que tu recherches, toi, juste quand tu te connectes sur ton application de rencontre, que tu swipe, like, match, envoie des emojis, réagis du tac au tac à un message bien mordant et finis par ghoster? L'amour, le sexe, un truc entre les deux, rien, tout, encore plus, toujours mieux? Homo Swipiens est une série de podcasts qui va tenter d'y répondre en interrogeant celles et ceux qui habitent temporairement, ou pour toujours, l'univers impitoyable des applications de rencontre. Je suis Anissa et je vous souhaite une bonne écoute. Libérer la parole, acte 2. Adélaïde, Juliette et Louise. En Allemagne, 90% des plaintes pour agression sexuelle sont classées sans suite selon l'organisation La Terre des Femmes. Alors pourquoi parler ? Qui a envie de supporter cette charge, la remise en cause perpétuelle de sa parole, le passage au crible de sa vie, pour qu'au bout du compte, il n'y ait même pas l'ombre d'une réparation ? Sachant que la justice est plus clémente lorsqu'il s'agit de juger les violences sexistes dans le cadre conjugal, à ce propos, regardez le reportage d'Arte « Tu m'appartiens », racine d'un féminicide. Il suffit, de toute façon, de regarder les trends TikTok pour comprendre la violence de cette double peine. Libérez la parole et au bûcher. Mais nous répondrons que lorsque l'ordre établi tremble, il se rigidifie. Les trois histoires que vous allez entendre sont le parcours trop ordinaire de victimes d'agressions sexuelles qui ont libéré la parole dans une société qui n'est pas encore tout à fait prête à la recevoir. Tant pis, elles continueront de parler. Acte 2. Par Adélaïde, Juliette et Louise.
Deux jours plus tard, je vois l'une de mes amies et je lui raconte, parce que franchement, vraiment, ça m'avait laissé... Vraiment, je me sentais salie.
Adélaïde.
Mais j'avais pas encore tilté que ce qui s'était passé, c'était une agression sexuelle. Et j'en parle à mon amie et elle me dit... Mais Adélaïde, ce qui t'est arrivé, c'est grave. Déjà, il a retiré le préservatif sans consentement. Ça, ça m'avait vraiment agacée. Elle me dit, c'est du stealthing, c'est une agression sexuelle.
J'ai su tout de suite que c'était un viol, que c'était en train de se produire. J'ai vraiment su que c'était ça.
Juliette.
Donc, le lendemain, quand même, j'étais dans une forme de déni. J'avais cette information en moi et je savais pas quoi en faire du tout. Et vu que ce viol allait aussi avec en fait un autre délit, et ben je focalisais complètement sur l'autre délit qui était que cet homme avec qui je relationnais avait fait brûler mon tapis et le sol en dessous. Et donc je focalisais complètement là-dessus et je t'en ai parlé directement. Et en fait, le truc c'est que c'était évidemment, c'était un peu la partie émergée de l'iceberg. Et je pense le fait de t'en parler, c'était déjà un premier pas, quoi. Enfin parce que j'avais besoin d'exprimer le reste, mais que je n'arrivais pas à le dire directement. Et puis ensuite, je te l'ai dit. Et là, tu m'as dit tout de suite de venir chez toi, et on a passé la soirée à parler, et donc j'ai été convaincue par toi et aussi par Charlotte d'aller porter plainte. Et ouais, je pense que c'est pour ça que je t'en ai parlé aussi, c'est parce que je voulais porter plainte. Mais que je pense que j'aurais pas pu le faire toute seule. Donc je pense que c'est pour ça que direct, j'ai quand même essayé de l'exprimer, de le faire sortir de moi.
Comment j'ai réagi ? Je vais commencer par celle-ci, parce qu'en fait, je pense que... je souhaite d'ailleurs à personne, mais on n'est pas du tout préparé à un tel événement.
Louise.
Avant d'avoir la prise de conscience de ce qui s'est passé, etc., de savoir un petit peu... qu'est-ce qu'on doit faire, où aller, il faut vraiment un soutien, et j'avais la chance d'avoir le soutien de mon colocataire. Donc, qui m'a vraiment soutenue pour me dire qu'il fallait que je dénonce cet acte, que j'aille voir la police. Et en fait, avant tout ça, il faut aller à l'hôpital. Donc du coup, je suis allée à un premier hôpital, donc le plus proche de chez moi, et en fait, je leur ai très brièvement, dans une salle d'attente avec plein de gens autour, expliqué, voilà, j'ai envie de d'être prise en charge, parce qu'en fait, au moment de cette agression, j'avais eu mal, j'avais saigné, etc. Donc j'étais inquiète par rapport à ma santé physique, en plus de ma santé psychologique également. Et du coup, je suis arrivée à cet hôpital, ils m'ont dit « Ah non, non, on peut pas du tout vous prendre en charge, il faut d'abord faire une déclaration à la police. » Et tant qu'il n'y a pas une déclaration à la police de fait, personne ne peut vous prendre en charge. Donc du coup, ils m'ont dit que pour ça, il n'y avait qu'un hôpital à Berlin qui faisait ça, et c'était la Charité. Donc je te laisse deviner que tout était en allemand, personne ne parle anglais, personne ne veut faire l'effort non plus de parler anglais. Donc je suis arrivée à la Charité, il a fallu attendre très très longtemps, donc personne ne pouvait vraiment checker en fait mon corps, ce qui s'était passé, j'avais aucun soutien psychologique vraiment avant la première étape, donc de parler à la police. Il y a 3 personnes qui ont débarqué, donc des policiers de la criminelle, je sais pas trop exactement, donc 2 hommes et une femme, et donc il me semble que la femme était un petit peu la chef du groupe. Elle parlait pas du tout anglais, donc c'était vraiment qu'en allemand. Donc je te laisse imaginer qu'à ce moment-là, j'étais complètement dévastée, je pouvais pas aligner 2 mots, j'étais complètement en pleurs. Donc du coup, c'était hyper compliqué de devoir m'exprimer uniquement en allemand. C'est vraiment à la fin, en fait, quand j'ai tout raconté, qu'ils ont compris, en fait, tout le début, en fait, de cette agression. Et en fait, ils prenaient des notes, ils me posaient plein de questions, et ils voulaient absolument, en fait, savoir le nom de la personne qui avait fait ça. Et à ce moment-là, j'arrivais pas du tout à le partager. Donc après ça, donc ça, c'est la première étape, donc la déposition. Ensuite, à partir de ce moment-là, il y a tout le corps médical qui intervient, donc ils te font des prises de sang, pour checker tout ce qui est MST, ils analysent ton corps, etc. Je crois que j'ai vu 4-5 médecins différents. Je ne vais pas trop dire quel type de médecin, je préfère rester ça, que ça reste personnel. Donc voilà. Donc ça, c'est la première étape. Donc 10 heures passées dans un hôpital. J'ai été ramenée donc, par la police vers minuit, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, après ça, je ne savais pas trop comment réagir parce que du coup, j'avais toujours pas dit le nom en fait, de mon agresseur.
Bon, déjà, au commissariat, dès que... Donc, on est arrivé.
Juliette.
J'ai prononcé les mots... je me suis présentée là à l'accueil, il n'y avait que des mecs. J'ai prononcé les mots « sexualisierte Gewalt », donc « violence sexualisée », enfin « violence de type sexuel ». Et là, ils m'ont orienté direct vers une femme policière. Donc, je me dis, pas mal. En plus, tu peux venir avec moi et tout, donc cool. Donc là, j'ai dû lui expliquer dans les grandes lignes ce qui s'était passé. Et il y a un moment où elle s'est exclamée, « Ah oui, alors si vous avez dit non, c'est un viol. » Et donc là, je me suis dit quand même, « Ok, il y a quand même un problème dans la manière qu'ils ont de percevoir les violences sexuelles. » Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de t'expliquer que... qu'on peut même ne pas dire non et c'est quand même un viol. Donc ça montre quand même une forme de manque de formation et qu'il y a ils ont des clichés qui sont encore ultra forts donc sur ce qu'est un viol et ils n'ont pas de connaissance, je pense, de la définition légale du viol. Ou du moins, cette personne n'avait pas de connaissance de la définition légale du viol. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que cette femme a appelé la CRIPO, donc la police criminelle, qui m'a emmenée à l'hôpital de la Charité pour l'examen médical. Et ils m'ont interrogée sur la banquette arrière de la voiture, donc de manière beaucoup, beaucoup plus détaillée. J'ai ressenti de la part de ces 3 policières, donc 2 femmes et un homme, j'ai ressenti de l'empathie. Mais ils m'ont quand même dit un truc un peu flippant en me déposant à l'hôpital. Ils m'ont dit en gros que la véracité de mon accusation, elle serait certainement mise en doute parce que en fait, donc dans le récit de mon viol, donc dans le récit de cette soirée, ben il y avait aussi pas que le viol, mais ce qui s'était passé avec le tapis, le parquet qui prend feu et tout, et que du coup on pourrait me rétorquer que je mens sur le viol pour avoir des réparations financières sur le... Enfin, bref. Donc, moi, je suis grave tombée des nues quand ils m'ont dit ça. Et ça m'a mise évidemment ultra dans le mal parce que je me suis dit, mais ok, donc... Donc, en fait, la logique de base, c'est celle-là. C'est qu'ils vont... On va essayer de démontrer que je suis une menteuse, quoi. Donc, en faisant, moi, ce pas-là... d'aller déposer une plainte, de dire ma vérité, de dire ce qui m'est arrivé, et en plus du coup de me rendre vulnérable, quoi, de dire des choses de ma vie qui sont dont pas tout le monde est au courant, quoi. En prenant ce risque, je prenais en fait surtout le risque de me faire traiter de menteuse aussi. J'ai été laissée toute seule dans un cabinet gynécologique pendant assez longtemps, genre 30 minutes, vraiment j'étais toute seule, et où j'étais au bout de ma life, je faisais que pleurer, donc je me suis dit pour rentabiliser en fait ce moment de solitude extrême, et où j'étais là en fait, en fait vu que les policiers en plus ils venaient de me dire ce truc sur... qu'on allait me dire, me traiter de menteuse et tout, j'ai faisais de la tachycardie et tout, enfin tout qui je commençais à y voir plus trop clair, donc j'ai pris mon carnet et j'ai écrit pour moi tout ce que je leur avais dit dans la voiture, donc j'ai écrit le récit détaillé de ce qui s'était passé il y a deux nuits pour moi aussi avant en conserver la mémoire, quoi. Et voilà. Et après, il y a le gynécologue qui est arrivé avec... c'était un homme, avec son assistante, une femme. Ils m'ont redemandé en détail tout ce qui s'était passé. Enfin, lui. Ensuite, ils m'ont examiné. Et du coup, normalement, ils sont censés faire deux prélèvements. Et il en a fait qu'un. Et il a mis dans dans son rapport qu'il n'avait pas fait le deuxième prélèvement parce que c'était trop traumatisant pour moi. Et ce dont je lui en suis assez reconnaissante parce que du coup, enfin, en écrivant ça, en quelque sorte, il montre qu'il me croit, quoi. Enfin, ouais, le fait de dire que c'est traumatisant pour moi, ça met du poids dans mon récit, quoi. Et donc j'ai senti de leur part vraiment beaucoup d'empathie. Ils ont été très carrés. C'était pas non plus, tu vois, ils m'ont pas non plus pris par la main et tout. Ils ont été carrés, ils ont bien fait leur travail et ils ont quand même fait en sorte de que je sois pas de pas me mettre encore plus dans le mal alors que t'es déjà bien, quoi, tu vois. Comme ils étaient professionnels, je pouvais leur faire confiance en fait. Tu vois, d'une certaine manière, je me suis dit ah, je suis entre de bonnes mains. Ils ont rien, tu vois, ils ont pas dit d'opinion personnelle sur la situation, quoi, ou comme là ce que la première policière, elle avait pu dire ah oui, si vous avez dit non, alors là c'est un viol. Enfin, genre ils ont pas dit des trucs comme ça à l'emporte-pièce. Ils ont fait leur boulot. Et le fait qu'il ait écrit ça dans son rapport, c'est un vrai soutien, quoi. Enfin, c'est en faisant son travail, il m'a soutenu.
Donc j'ai décidé de porter plainte. Adélaïde. Et du coup, j'ai commencé les démarches avec les services de police berlinois. Et donc on m'a fait parvenir un questionnaire que j'ai rempli. Donc j'ai dû revivre toute la scène, hein, parce que là pour le coup les questions, on te demande combien d'alcool tu avais bu, si tu avais pris de la drogue, si l'autre personne avait pris de la drogue. Moi j'étais là mais je ne prends pas de drogue, donc comment est-ce que je peux même reconnaître que l'autre personne avait pris quelque chose. Combien de temps le rapport a-t-il duré? Combien de temps le rapport a-t-il duré après que vous ayez remarqué qu'il avait enlevé le préservatif? Ça c'est vraiment une question dégueulasse, en toute honnêteté, parce que... Vraiment, ça prend pas en compte l'effet de choc et l'état dans lequel tu es en tant que personne. Est-ce que vous lui avez dit qu'il n'y avait plus le préservatif? Comment a-t-il réagi? Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Enfin, des trucs comme ça. Est-ce que vous voulez porter plainte contre lui? Est-ce que vous voulez... Do you want to press charges? Je dis, oui, évidemment. Pourquoi? parce que très clairement, ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Et voilà, beaucoup, beaucoup de questions. Et j'aurais même fourni le numéro de téléphone donc, de mon ancien partenaire pour qu'il puisse se mettre en contact avec lui. Puisque je me suis dit, dans la mesure où j'ai des chlamydia, ils vont peut-être vouloir quand même se mettre en rapport avec l'autre personne pour être sûr que ce n'est pas lui qui me les a filés, pour ne pas utiliser des preuves à mauvais escient. Et donc ça, c'est en juillet 2021. J'ai reçu une réponse en décembre 2021. Silence radio entre juillet et décembre, il ne s'est rien passé du côté de la police.
Alors, je me souviens plus exactement si j'ai reçu une lettre ou bien si j'ai reçu un coup de fil de la Kripo.
Juliette.
Mais en tout cas, il fallait que je sois de nouveau interrogée, en fait, pour mon dépôt de plainte. Il fallait que je sois réentendue, cette fois-ci par une commissaire, quoi, en gros. Par une enquêtrice. Donc là, j'ai passé 4 heures. C'était hyper dur. C'était que des femmes dans le bureau, genre que ce soit celles qui tapaient, qui prenait en note, enfin qui dactylographiait, je sais pas comment on dit. La commissaire qui me posait les questions, elle était très professionnelle. Donc première chose qu'elle m'a montré, c'est les mouchoirs, la boule anti-stress, l'eau. Genre elle m'a vraiment mis en condition, elle m'a dit qu'ils sont formés pour ce genre de situation. Que si j'ai besoin d'aller aux toilettes, que je le dise, qu'elle fera des pauses et tout. Enfin, je me suis sentie quand même bien accueillie, et le fait que c'était que des femmes, ça m'a fait un peu baisser la pression. Bon, après, c'était horrible de raconter pendant 4 heures ce qui s'était passé, très très en détail, avec des questions ultra précises. Ouais, c'était dur. Mais après, par exemple, il y a un moment, on a fait une pause au bout de 2 heures pour que j'aille aux toilettes parce que j'avais bu un pichet entier d'eau. Et là, elle m'a déjà donné, pendant cette pause, elle m'a donné des flyers pour des associations d'aide aux victimes et tout. Elle m'a dit, en fait, les démarches à faire. Genre contacter une psychosociale Arbeiterin, donc une sorte de psy, quoi, qui me serait attribuée par le tribunal, vu que du coup j'avais entamé un processus judiciaire, j'avais le droit à un accompagnement psy. Donc elle m'a quand même donné beaucoup beaucoup d'infos que j'avais pas. Donc ça, j'en étais reconnaissante, et le fait qu'elle me donne ces infos, ça m'a fait me sentir aussi un peu safe dans ce moment-là qui était un moment très dur.
Et un mois plus tard, j'ai reçu cette fameuse lettre où il me demande si je veux continuer les procédures, et il faut que je donne un nom.
Louise.
Sinon, ça sera juste une main courante anonyme, quoi, en fait. Donc du coup, j'ai décidé, en fait, d'aller au rendez-vous de la police, de dire son nom. Et à ce moment-là, la procédure a commencé, quoi. Donc je me suis rendue à la police, j'ai de nouveau... à une autre personne, différente encore, expliquer tout le processus, l'acte, comment ça s'est passé. Il faut vraiment rentrer à ce moment-là dans tous les détails pour que la police puisse faire son boulot. Ils m'ont demandé si j'étais bourrée, alcoolisée, si j'avais pris des drogues, si la personne en face de moi avait également pris des drogues, si elle avait... comment on en était arrivé à l'acte. Donc c'est vraiment tous les détails. Je me souviens d'ailleurs qu'ils étaient allés chez moi pendant que moi j'étais à l'hôpital. La police était rentrée en raccompagnant mon coloc avant que moi je rentre. Ils avaient pris tout ce qui est mes draps, mon pyjama, ma culotte, enfin tous les éléments en fait qui peuvent compter. Ils les amènent avec eux pour les analyser. Et pour aussi avoir les semences et pouvoir en fait classer en fait la personne qui en fait l'agresseur. Donc du coup donc faut rentrer vraiment dans les détails, et à chaque fois ça ravive toujours un peu cette blessure, donc c'est très très compliqué. Donc après cette première déposition, l'agresseur reçoit une lettre à son domicile qui le convoque du coup aussi à la police à ce moment-là. Et si je me souviens bien, il s'est pas rendu à la police. Donc c'est la police en fait qui est allée le chercher. Et c'est à ce moment-là où la procédure a réellement commencé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait ma première déposition, et le temps que lui reçoive la lettre, il y a à peu près, je pense, 3-4 mois qui se sont passés à peu près. Et dans ces 3-4 mois, en fait, il y a eu une autre victime de ce même agresseur. Donc du coup, ils sont allés le chercher, ils ont vu qu'il y avait eu deux dépositions contre lui. Ils l'ont mis en sursis, enfin en prison pendant une semaine, il me semble. Il me semble qu'il avait aussi un bracelet, mais je ne suis plus très sûre de ce que m'a raconté mon avocat. Et donc du coup, ils l'ont remis en liberté complètement parce qu'ils ont jugé qu'il n'y avait pas assez de charges contre lui. C'est un premier juge, ouais. C'est pas le procureur parce qu'en fait, il y avait pas encore de, enfin, on n'était pas encore allé en justice, donc c'est vraiment, ça reste un cadre assez, police, premier juge, etc. Et donc du coup, ils ont décidé qu'il y avait pas assez de charges contre lui, de preuves. Et donc du coup, à ce moment-là, il a fallu que je prenne mon avocat, l'autre personne aussi agressée a dû prendre aussi un avocat. Et en fait, ça s'est passé à peu près 6-7 mois après ma déposition. On m'a contacté un beau matin, une association qui m'a dit « Oui, on est vraiment désolé de vous avoir complètement laissé tomber par rapport à ça. Ça a pris plus de temps que prévu. On est une association, je suis psychologue et on est là pour vous accompagner. »
Et attends, donc du coup, cette association, elle a eu ton contact par quel biais ?
Par la police, du coup.
Donc la police... envoie les contacts des victimes, ouais, à une association.
Donc du coup, c'est une personne qui travaillait pour le Weissenring qui m'a contactée, qui m'a dit voilà ce que je vais faire, prendre un avocat. Entre-temps, j'avais quand même déjà pris une psychologue parce que j'arrivais pas du tout à aller au-delà de cet événement. Et qui m'avait aussi encouragé à prendre un avocat. Donc du coup, j'ai cherché un avocat, j'ai pris un monsieur que j'ai trouvé un petit peu par hasard sur Internet. On m'avait conseillé de prendre un homme, donc du coup, voilà, j'avais pris un homme qui parle français.
Pourquoi on t'a conseillé de prendre un homme ?
Ma psy et même la personne du Weissenring m'avait dit qu'ils avaient plus de... on avait l'impression que comme moi, j'étais une victime féminine, le juge allait peut-être considérer en fait que mon avocat serait moins subjectif en fait par rapport à ce qui m'est arrivé, parce que c'est un homme, donc il peut avoir un peu plus de distance. Voilà, bon, à ce moment-là, j'ai pas trop réfléchi. Je fais bon, très bien, je voulais absolument quelqu'un qui parle français, donc j'ai pris, je crois qu'il y avait deux avocats qui parlaient français et qui parlent allemand, donc j'ai pris un avocat. C'était vraiment, c'est un mode d'avocat qui n'ont aucun sentiment, aucune émotion. La première entrevue, ça s'est passé presque de toute façon un an après l'événement. Donc du coup il faut de nouveau raviver, raconter de nouveau tout ce qui s'est passé, etc. Il prend des notes, il y a vraiment aucune émotion, aucune compatie. C'est vraiment genre c'est son job, il gagne sa vie avec ça et voilà quoi en fait. Et on vous rappellera dès qu'on aura un petit peu plus de nouvelles, etc. Je pense que j'ai eu des nouvelles. Ah oui, entre temps. Cet avocat en question ne pouvait plus s'occuper de mon dossier, donc il a dû switcher avec son associé, donc j'ai dû refaire une déposition à un nouvel avocat qui parlait pas, pour le coup, pas vraiment français, donc j'ai dû la faire en allemand. Enfin, c'était très catastrophique. J'ai l'impression qu'en fait, à partir du moment où il n'y a pas vraiment de but lucratif derrière un cas, c'est un peu mis aux oubliettes. Mais même pour la justice, hein, parce qu'entre le moment où l'acte s'est passé et le premier rendez-vous au tribunal, il y a 3 ans qui sont passés. Donc c'est lourd parce que en fait tu dois un petit peu te débattre toute seule. L'association, ils m'ont trouvé des psychologues. Ils m'ont dit le seul psychologue qui est remboursé par la sécurité sociale, elle est à Potsdam, donc ça voulait dire faire tous les jours. Enfin, à chaque fois que j'avais un rendez-vous avec elle, il fallait que je prenne les transports, faire 1h30 et revenir chez moi. Enfin, c'était pas très pas un très bon suivi quoi. et en fait du coup ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça donne pas envie d'en parler, ça donne envie juste de l'enterrer et de pas s'exprimer dessus en fait, de juste oublier, enterrer et hop là, il s'est rien passé en fait. Parce que du coup, il y a pas de soutien, il y a pas de suivi. J'avais une psychologue heureusement qui parlait français qui m'a beaucoup beaucoup aidé par rapport à ça.
mes parents qui ont reçu la lettre et que je leur avais pas dit, en fait.
Juliette.
Et du coup, c'était la lettre qui disait que ma plainte faisait l'objet d'une enquête et que du coup, il y avait un avocat qui avait été attribué à l'homme que j'accusais de m'avoir violée. Donc, c'est mes parents qui ont reçu cette lettre, donc voilà, ce qui les a mis au courant de ce qui m'était arrivé. Et en fait, bah ensuite, bah moi j'en ai parlé avec ma psychosociale Begleiterin, donc mon accompagnatrice psy, qui m'a dit que en fait si ça se passe, donc parce qu'on savait pas trop ce que ça voulait dire, parce que donc moi j'avais plus aucun contact avec, enfin les flics ne te disent rien à partir du moment où t'as déposé ta plainte, où t'as fait ton récit, en fait t'as plus du tout de contact avec eux quoi. Donc si tu voulais dire un truc en plus, je pense pas que trop que ce soit possible. Moi d'ailleurs j'avais essayé d'entrer en contact avec eux parce que j'avais eu des informations par une pote sur une autre personne qui avait connu aussi et qui aurait été prête à témoigner dans le cadre de mon dépôt de plainte, et du coup je leur avais envoyé un mail pour leur dire voilà, il y a cette personne là qui a été relationnée aussi avec lui et qui voudrait témoigner, et ils m'ont jamais répondu là-dessus, tu vois. Et donc bref, je reçois cette lettre et j'appelle ma psy et elle me conseille de prendre une avocate aussi parce que en gros elle dit que si ils lui ont donné un avocat à lui, c'est que a priori ça va être porté ça va être porté au tribunal quoi. Et effectivement ça a été le cas parce que en fait quand j'avais fait mon Anzeige à la Kripo, j'avais coché la case pour avoir l'option en fait de faire mon témoignage devant un juge vidéo, pour que s'il y avait procès, on me fasse pas venir et que je sois pas que je sois pas dans la même dans la salle le jour du procès quoi. C'est une procédure qui existe en Allemagne et qui est pour les victimes de violences sexuelles, et du coup j'avais accepté tout de suite. J'ai pris mon avocate et après et j'ai été convoquée effectivement après genre quelques mois plus tard c'était en octobre 2020 sachant que le viol s'est passé en 2020 aussi, c'était dans la même année et donc pas un processus judiciaire trop long, disons. Ça a été quand même plutôt assez rapide. Il y a toutes ces lettres qui se sont enchaînées. À chaque fois, c'était c'était un trigger, quoi, de recevoir ces lettres. J'ouvrais ces lettres et ça mettait dans des états pas possibles. Du coup, j'ai été convoquée, voilà, en octobre 2020. J'y suis allée avec mon avocate et ma psy qui m'a accompagnée jusque dans la salle où j'étais entendue pour mon comme témoin dans cette affaire. Donc j'ai de nouveau raconté. Évidemment, ils m'ont posé à un moment des questions un peu précises sur l'ordre de certains trucs, et là je savais plus leur dire. Je sais plus, 7 mois après, je savais plus leur je pouvais pas leur confirmer si c'était bien comme ça que ça avait été, parce que j'étais un peu aussi dans un processus d'amnésie, quoi. Voilà, après, une fois que c'était fini... En fait, voilà, aussi important, la procureure, c'était une procureure, c'était une femme. Et en fait, donc après, quand on est sorti de ce tout petit bureau-là où on était entassés les uns sur les autres, on était 8 ou 9 là-dedans, c'était assez... C'était assez oppressant. Une fois qu'on est sorti de là, elle m'a montré des signes de sympathie immédiatement. Elle m'a demandé ce que je faisais, si je rentrais tout de suite à Essen ou si je restais un peu à Berlin. Parce que du coup, oui, il a fallu que j'aille à Berlin pour ça. Donc c'était aussi un peu ça aussi, c'était le stress quoi, de devoir me rendre à Berlin spécialement pour l'occasion. Que ce soit une fois, c'était pour rencontrer ma psy, la deuxième fois, c'était pour ça. Donc, ça faisait quand même un peu une épée de Damoclès. Enfin, Pas un peu. C'était une grosse épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Et là, mon avocate m'appelle pour me dire que la procureure me croit et que ça va être porté au pénal, que du coup, l'État allemand porte plainte. Donc, trop bonne nouvelle. J'étais hyper contente, j'étais soulagée. Je me suis... Enfin, tu vois, d'un coup, ça m'a vraiment enlevé un poids et je me suis dit, waouh, il me croit, c'est génial. Mais il y a eu un non-lieu. Non, il n'y a pas eu de procès parce que, ils n'ont pas été capables de le retrouver.
Et en décembre, je reçois une réponse de la police qui me dit...
Adélaïde.
On n'a pas pu trouver la personne. Donc, je m'en doutais, puisque c'était un appartement temporaire. Hein, tu connais les joies de la vie à Berlin. Et je leur avais dit. Je leur avais dit déjà, il vit dans un appartement temporaire, mais voici son profil LinkedIn, son profil Facebook, son numéro de téléphone, son adresse email, ses photos. Donc, ils savaient où il travaillait. Je veux dire, si vraiment t'as envie de trouver quelqu'un, t'envoies une lettre à son travail. Il n'y a pas de souci. Je veux dire... Tout était possible, même les services de l'application, Hinge, parce que j'ai vu qu'il s'était recréé plusieurs profils sur l'application, et à chaque fois je le signalais quand je le voyais, et j'ai même eu une discussion avec Hinge, parce que je leur disais, c'est quand même la quatrième fois que je report son profil, je ne comprends pas qu'il puisse encore s'inscrire, et ils m'ont dit, en fait, il s'inscrit avec plusieurs adresses email différentes, donc j'ai fait remonter à notre équipe d'ingénieurs pour qu'il soit vraiment banni. Mais donc, si les services de police avaient voulu se mettre en contact avec l'application, puisque j'avais aussi fait parvenir tous les échanges de mails, ils auraient pu avoir son adresse email. Il y avait tellement de moyens de le trouver, ce mec. Et ils avaient son nom complet. Donc ils avaient trouvé quand même, ils avaient conscience de l'identité de la personne. Et ils m'ont envoyé une lettre quand même qui me disait, dans tous les cas, d'après les échanges de SMS que vous avez eus, cette personne avait l'air quand même relativement confuse une fois qu'elle avait retiré le préservatif. Il semblerait que vous étiez quand même consentante puisque vous êtes restée. Donc la police m'a dit ça. Enfin, pas la police, pardon. Qu'est-ce que c'est en français l'attorney
Le procureur.
Oui, le procureur me dit ça. Alors très honnêtement, quand j'ai lu cette lettre, ça m'a vraiment remis dedans, quoi. Je me suis dit... c'est bien, on t'enfonce la tête sous l'eau, quoi. Parce que ils nous ont dit, enfin ils m'ont dit, en gros, ça sert à rien qu'on traîne ce gars en justice, parce qu'il n'y a pas de preuves. Vous étiez toute seule avec lui, donc il n'y a pas de témoin, voilà, qui peut témoigner de ce qui s'est passé. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a régulièrement des témoins quand on a des relations sexuelles avec quelqu'un. Hein. Donc vous étiez que tous les deux. C'est un cas de he said, she said. Donc, concrètement, d'après les échanges de messages, vous étiez consentante puisque vous êtes restée après qu'il ait enlevé le préservatif. Et en plus, de toute façon, on l'a pas trouvé. Donc, ça veut pas dire qu'on vous croit pas, mais bon. Donc, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Là, franchement, j'ai pleuré, quoi. J'ai lu ça, je me suis dit, c'est dégueulasse. Donc, je me suis mise en contact avec Weissering. Donc, Weissering, c'est une association... qui aide justement les victimes, les femmes, et que ce soit pour tout type, hein, que ce soit violence domestique, que ce soit donc ce genre d'agression sexuelle ou d'autres choses encore. Donc Weissering a été super efficace, j'ai été en contact tout de suite avec une personne de mon arrondissement qui m'a donné un chèque et qui m'a conseillé une avocate. Alors franchement, avocate horrible. L'avocate, très clairement, pas du tout concernée. Alors, avocate française en plus, francophone, pas française, francophone, mais j'ai cru qu'elle était française parce qu'elle avait un nom français, et je la contacte, et du coup elle me dit oui, ça me semble perdu d'avance ce cas. Elle me dit bon, on va essayer, mais franchement, comme il n'y a pas de preuves et puis que bon, ils l'ont pas trouvé, ça sent mauvais. Et après elle demande le dossier, elle regarde les preuves, elle me dit oui, mais quand même, vous avez écrit dans le rapport de plainte que le rapport, il a duré 15 minutes quand même après qu'il ait enlevé le préservatif. Donc, je comprends pas pourquoi vous êtes partie. Vous auriez juste dû partir hein, quand vous vous êtes rendu compte que le préservatif a été enlevé. Et donc, me voilà à 21h30 en mode social justice warrior à lui répondre « Je suis outrée que vous puissiez dire de telles choses alors que vous êtes avocate pour des femmes, notamment victimes de violences domestiques et agressions sexuelles. » n'êtes-vous pas consciente que l'état de choc existe ? Mais je lui ai dit, mais c'est incroyable que vous puissiez dire ça à une victime d'agression sexuelle, mais de quel droit ? Vraiment, j'étais outrée. Elle me dit, ah non, non, mais je comprends. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils vont vous dire si ça va jusqu'au procès. Et de toute façon, c'est perdu d'avance. Ça n'ira pas jusqu'au procès, ils vont refuser. Et ils ont refusé. Elle me dit, on peut quand même pousser, mais ils vont refuser. Et donc, à chaque fois, en plus, on recevait les lettres. Ils disaient à chaque fois, oui, vous avez 10 jours pour prendre une décision. Si vous voulez continuer ou pas. Et c'était toujours pareil avant des moments clés de l'année, donc avant Noël ou avant des moments fériés, quoi. Donc ça, ça m'a rendue folle aussi, parce que c'est toujours là, ok, donc toi, t'as que 10 jours. Eux, ils mettent 6 mois de répondre, mais toi, t'as que 10 jours vraiment pour prendre une décision. Et au final, le procureur général a envoyé une lettre qui disait « Non, on veut pas de votre dossier, ça viendrait nulle part. De toute façon, on l'a pas trouvé, et puis il n'y a pas de preuve. » Donc c'est mort, ça n'ira pas jusqu'au procès. Et après, mon avocate, elle dit « Bah, vous voulez faire quoi ?» Bah, je lui dis « Bah, vous êtes avocate, donc dites-moi. » Et elle me dit « Bah, j'ai pas envie de vous représenter parce que c'est perdu d'avance. » Et franchement, donc le procureur, c'était une femme hein, aussi, je tiens à le dire. Hein. Donc j'ai été en contact avec des femmes dans cette affaire. Donc c'est extrêmement frustrant de se faire représenter par une femme qui... Enfin, une avocate, donc une femme qui ne croit pas en vous, qui croit pas non plus que vous êtes une victime. Et... une procureure qui n'a pas non plus envie d'amener votre dossier jusqu'au procès. Ça, vraiment, c'est... Enfin, franchement, c'est dur de croire en l'humanité.
Et du coup, c'est presque... Enfin, c'est pas une chose qu'on oublie, mais c'est presque au moment où, ça y est, on commencera à réavancer dans la vie.
Louise.
On se sent mieux, etc., que ben, la petite lettre du tribunal arrive. Ça y est, vous êtes enfin convoquée pour le tribunal, avec ben, une série de gens qui sont aussi invités. Donc, c'est vraiment pas un petit huis clos, un petit tribunal. C'est vraiment un tribunal où il y a 15 personnes qui ont toutes des fonctions différentes.
Comme quoi, par exemple ?
Ben, surtout que ben, y a l'avocat de la personne, il y a la personne en question. Après, ben, y a la personne qui va prendre des notes, il y a le juge, peut-être des juges adjoints. Enfin, je m'y connais pas trop en justice. Moi, j'avais ben, la psychologue, l'association, mon avocat, une personne qui va traduire, du coup, parce que j'avais demandé à le faire en français. Et c'est public, en fait. Donc, les gens peuvent rentrer, etc. Et j'avais même visité, du coup, avant l'audience, le tribunal pour un petit peu me familiariser avec les lieux. Donc ça, c'était toujours avec le soutien ben, de l'association Weiss & Ring. Et j'avais eu... Donc, pour tout, j'ai dû avoir 2 rendez-vous avec mon avocat. Et c'est tout. Ils m'ont dit, oui, en fait, il faut juste être vraiment naturel. Le plus naturel, le mieux, c'est le jour de l'audience. Comme ça, ça sort plus facilement, c'est plus naturel. Et on voit que vous n'avez pas travaillé, en fait, votre rôle. Donc voilà, donc j'ai eu 2 rendez-vous. Et c'est vrai que bah, j'attendais vraiment ce jour au tribunal. Pas parce que c'est un bon moment ou quoi que ce soit, c'est juste j'attendais parce que j'étais enfin, après 3 ans, il va vraiment se passer quelque chose. Parce qu'en attendant, pendant ces 3 ans, bah, la personne vivait sa vie complètement normalement. Hein. Il n'a pas eu du tout de problème sur ça. 2 semaines avant l'audience, en fait, j'apprends que la personne a fui hein, en quelque sorte l'Europe, quoi. La personne venait d'Afghanistan, donc on n'a pas du tout d'accord, encore moins maintenant, hein, bien sûr, avec l'Afghanistan, donc de répatriation ou de quoi que ce soit, ou de suivi criminel. Donc la personne est rentrée en Afghanistan et a juste dit des excuses qu'elle avait le Covid, donc elle ne pouvait pas rentrer. Enfin, c'est que ces excuses, en fait, que j'ai eues. Donc du coup, comme c'était une excuse valable à ce moment-là, ils ont dit « Bon, bah, très bien, pas de souci, on va décaler en fait, la date de l'audience. » Donc ça a été décalé une première fois, 2-3 mois après. Et finalement, pas tant surprise que ça, l'audience a été annulée et il n'a pas eu lieu. Il y a eu ça a été très compliqué pour la première audience parce qu'en fait il ne l'avait pas signalé que l'agresseur ne viendrait pas. Donc tout était prêt en fait, les juges étaient prêts, ils étaient là et en fait il a fait une sorte de no-show. Il est juste pas venu, sachant qu'il était la première personne convoquée pour le tribunal. Et du coup, oui, ça n'a pas du tout fait rire les juges. Mais bon, je trouvais ça un petit peu facile de se dire qu'un agresseur qui est quand même... enfin, qu'on a dénoncé à deux reprises, puisse tranquillement s'asseoir dans un avion avec son passeport et rentrer chez lui, quoi. Donc voilà.
Il avait pas d'adresse connue.
Juliette.
Et moi, je connaissais pas son adresse parce qu'il n'avait pas d'adresse. Donc, ils n'ont pas été capables de le retrouver. Donc, ils m'ont dit, si vous n'êtes pas capable de nous fournir son adresse, on va arrêter les poursuites parce que ça sert à rien. On le trouve pas. Donc, sans accusé, il peut pas y avoir de procès, en gros. Ben moi, ce qui m'interroge en fait, c'est que ils ont interrogé 3 de mes potes pour que vous confirmiez en fait donc qui je suis et si vous, enfin, que vous donniez une bonne image de moi en gros, enfin pour vérifier que je disais la vérité quoi. Ils ont interrogé quand même 3 de mes amis. Et ensuite, enfin, genre l'information que j'ai plus tard, donc alors que vous connaissiez pas le mec, donc c'était vraiment sur moi, quoi. Ils ont bien enquêté sur moi, j'ai l'impression. Et en revanche, ben, une personne qui aurait pu leur fournir d'autres infos sur cet homme, ben, elles l'ont jamais convoqué en fait pour l'entendre. Donc là, je me dis quand même que, enfin, ça cloche pour moi. Ça cloche vraiment. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait l'effort de la convoquer, elle. En plus, ils avaient ils avaient quand même des informations sur lui, dans quel club il allait régulièrement, où il avait été vu. Enfin, je pense ça aurait été possible de faire un peu plus. Et moi, il y a même des fois où je me suis dit, putain, mais en fait, je devrais imprimer sa photo et genre la donner, tu vois, à l'entrée des clubs où il va. Genre en leur disant d'appeler la police s'il vient. Mais c'est pas à moi de faire ça, en fait.
Donc, ouais, t'as un sentiment que la justice, elle a pas vraiment fait son travail, quoi.
Ben, je sais pas. Je pense qu'ils ont pas tout mis en œuvre. Et je pense qu'ils ont pas... tu vois, le fait qu'ils aient pas... Même pas... enfin, je sais pas. Après, peut-être ils l'ont fait. Mais enfin, je sais quand même de source assez sûre que cette autre personne donc qui a aussi été donc victime de lui n'a pas été entendue. Donc le fait qu'ils font face comme si mon truc c'est tout seul, alors que, enfin, mon viol c'est le seul viol commis par ce mec, alors que il y aurait eu des preuves qu'il a, enfin pas des en tout cas des témoignages d'autres exactions qu'il a commises. Et le fait qu'il donne pas de chance à cette piste-là, ben, je sais pas, je trouve que c'est... Ouais, non, là, ils ont pas fait leur boulot.
J'ai pas envie, en fait, de me ruiner la santé, à continuer d'essayer avec des avocats, alors que très clairement, ils ne veulent pas.
Adélaïde.
M'aider. Parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, quand même, le stealthing, c'est reconnu comme un acte punissable par la loi. Et en Allemagne, ils sont super woke. Hein. Ils sont là, genre, oui, non, punis le stealthing, vraiment, c'est pas bien. Et je suis pas la seule hein, à qui c'est arrivé et pour qui c'est rien passé. Et donc, c'est techniquement punissable, mais en fait, il se passe rien du tout. Et faut savoir aussi qu'après, beaucoup de gens m'ont dit... oui, il faut absolument que tu ailles voir les médias, que tu en parles. Mais moi, j'ai pas envie que ma tête soit dans les journaux. J'ai pas envie que mon activité professionnelle soit impactée par ça, ad vitam aeternam, parce que je suis la fille qui a été agressée sexuellement et qui se bat pour être reconnue, pour que ce mec-là, bah, il paye une amende ou que voilà. Moi, en fait, cette action en justice, je voulais qu'elle soit faite, même pas pour gagner. À la base, je voulais vraiment le traîner en justice. Pour qu'ils se rendent compte que ces actes ont des conséquences et qu'on ne peut pas faire ça impunément. Mais en fait, on peut faire ça impunément parce qu'en Allemagne, la loi, elle dit qu'on ne peut pas diffamer quelqu'un. Donc concrètement, moi, je n'ai pas le droit de dire sur les réseaux sociaux le prénom et le nom de cette personne, de poster sa photo et de dire « cette personne m'a agressé sexuellement, cette personne a fait ci, ça ». Je n'ai pas le droit parce qu'il peut me poursuivre en justice et il va gagner. J'ai pas le droit d'aller le voir dans la rue et de lui casser la gueule parce qu'il peut me traîner en justice et gagner. Et bah, du coup, j'ai pas le droit non plus de le traîner en justice, au final, parce que, du coup, il s'est rien passé. Donc ce mec, en fait, il a gagné sur tous les fronts. Il a vraiment gagné. Parce qu'il peut faire tout ce qu'il veut, il n'est pas puni. Donc, aujourd'hui, déjà, j'ai arrêté de me battre de façon légale, parce que ça sert à rien. Donc, c'est aussi pour ça que j'en parle publiquement sur des podcasts, parce que je pense que c'est important quand même de le savoir. Mais j'ai pas envie de me ruiner la santé à continuer. J'ai fait mon travail pour aller au-delà de ce trauma physique et mental, et ça va mieux. Mais c'est important que les gens sachent ce qui se passe, et il y a aussi des groupes où on peut publier anonymement, et c'est important. Et du coup, je publie sa photo, et je publie son prénom, pour que les personnes qui éventuellement le rencontrent sur les applications sachent à quoi s'en tenir. Mais je trouve ça absolument injuste. En fait, on peut envoyer nos témoignages anonymement à un bot qui les publie pour nous directement sur le chat, pour justement qu'il n'y ait pas de problème de diffamation, parce que ce groupe a déjà dû être supprimé une fois, puisqu'il y a des personnes dans le groupe, de façon très triste, des femmes du groupe, qui ont vu certains de leurs amis hommes impliqués dans des histoires pas très drôles, et du coup qui ont envoyé les témoignages à leurs amis, qui ont par la suite décidé de poursuivre en justice la créatrice du groupe. Donc pour se protéger, elle a décidé par la suite de rendre ce groupe anonyme pour que justement il n'y ait plus de problèmes, et pour éviter aussi des poursuites en justice, parce que c'est vrai, c'est ce que tu disais, c'est une double peine en fait, on n'a pas de solution.
Alors, il n'y a pas grand-chose à faire, parce que du coup, la seule chose que mon avocat m'a proposé...
Louise.
Alors, en fait, il y a toujours une date limite de jusqu'à quand, en fait, on peut dénoncer quelqu'un. Et ce que je ne savais pas, en fait, c'est que comme moi, ça faisait plus de 3 ans au moment de l'audience, j'avais que jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à décembre 2021... pour dénoncer et pouvoir en fait tout le temps être toujours dans le process quoi. Et surtout qu'en fait moi ce que je comprenais pas, c'est que je trouvais qu'il y avait une erreur en fait du juge dans cette démarche de ne pas avoir soit confisqué, supprimé ou détenu en fait le passeport de la personne en question et de pouvoir lui donner le choix de partir quand elle voulait. Et c'est pour ça que, du coup, en décembre, seulement en décembre, donc mi-décembre, je crois, donc quelques semaines, jours avant de pouvoir plus du tout agir, en fait, sur tout le process, mon avocat m'appelle pour m'expliquer la situation, que, du coup, la seule chose qu'on puisse faire, c'est faire des démarches un peu, en quelque sorte, Interpol, dans le sens où, s'il revient en Europe, son profil va tout de suite matcher avec une personne qui est criminelle, qui est recherchée, donc elle ne pourra pas rentrer, ou alors elle sera directement accueillie par la police. Parce que, du coup, on ne peut rien faire tant que la personne reste en Afghanistan. Et ensuite, j'ai demandé, mais quel en est du fait de pouvoir... en quelque sorte, mettre en justice la personne qui a jugé qu'il n'y avait pas assez de charges contre cette personne et qu'elle pouvait, en fait, juste garder son passeport et continuer à vivre normalement. Et en fait, ils m'ont raconté que c'était pas du tout commun de faire ça en Allemagne, que personne n'avait fait ça, qu'il y avait très très peu de chances de faire ça, parce qu'en fait, c'était vraiment un avocat qui lui-même travaillait pour la justice, qui allait en fait mettre en justice un juge qui est aussi la justice quoi. Donc en fait c'est quelque chose qui est peu commun. Mon avocat m'a dit que si vraiment je voulais entamer cette démarche, il ne m'aiderait pas, il ne voudrait pas en fait être à mes côtés et prendre le dossier pour des valeurs éthiques de sa part. Et du coup, c'est vrai que j'avais plus que 2 semaines, en fait, pour soit changer d'avocat, trouver quelqu'un qui voudrait prendre mon dossier. Et c'était pendant les vacances de Noël, donc c'était très compliqué à trouver. Finalement, j'ai contacté d'autres personnes, mais j'ai pas eu beaucoup de réponses, ou alors des réponses comme quoi ils étaient un petit peu surchargés de dossiers déjà et qu'ils pouvaient pas prendre mon cas. Donc c'est un peu la fin de l'histoire, qui est très malheureuse. Je l'avoue, mais oui, il n'y a pas grand chose à faire dans ces cas-là, à part peut-être en parler dans un podcast, quoi. J'avais recontacté la psychologue de base qui m'avait qui m'avait sorti un petit peu le même discours de l'avocat. Elle m'a dit oui, c'est pas courant, parce qu'elle est aussi allemande. Donc du coup, elle me disait, en Allemagne, on fait pas vraiment ça, il y a pas grand chose à faire. Et à part avoir des soutiens de groupe, avec des victimes aussi de viol, ou alors des, de pouvoir mettre à disposition des psychologues. Mais il n'y a pas vraiment... Enfin, on est un peu seul hein, dans une telle procédure. On est très, très seul, en fait. Et après, j'ai contacté 2-3 avocats, beaucoup sans réponse, ou alors qu'ils avaient trop de dossiers déjà en place. J'ai recontacté cette association. Mais c'est vrai que c'est aussi une charge psychologique, une pression tellement énorme qu'à chercher, à vouloir vraiment... en fait, on a toujours ce truc qui est ravivé en soi et au final, c'est beaucoup de charges psychologiques et peut-être qu'au bout d'un moment, on baisse un peu les bras. Hein. On a peut-être envie que ça s'arrête, on a peut-être envie de mettre ça derrière nous et pas penser pendant 3 à 4 ans tout le temps à ça. Et même si on a envie de se battre au fond de nous, c'est compliqué quand on est un peu seul. Ouais. Je pense que j'ai fait un bon travail psychologique avec une psychologue, donc du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et j'essaie de tremper avec ça. Et c'est vrai que ça a été très compliqué au début quand j'ai appris qu'il était parti. En fait, je pense que le moment où vraiment ça a été très compliqué, c'est de me dire qu'il n'y aurait jamais de justice. Parce que il était en Afghanistan, même si c'est pas le pays où on est le mieux en ce moment. Mais voilà, je pense que c'était le moment, donc c'est il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant, où c'était le plus dur de me dire qu'il y aurait jamais de justice et que voilà. Mais après un an, etc., on doit juste l'accepter, je pense, malheureusement.
Merci à Adélaïde, Juliette et Louise d'avoir à nouveau raconté leur histoire. Dans le dernier épisode de cette série, je vais interroger 2 spécialistes du droit pénal allemand sur le traitement des violences sexuelles et sexistes et reviendrai avec elles sur les propos qui ont été évoqués. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez soutenir mon travail, complètement gratuit et bénévole, je vous invite à marquer votre reconnaissance par des étoiles et des commentaires sur Spotify et Apple Podcasts, et surtout à en parler autour de vous.